Bonjour, je m'appelle Laurent Bernier, je suis un étudiant au Cégep de Saint-Jérôme. Je suis en sciences humaines et je fais mon cours de projet d'intégration en sciences humaines. Comment vous vous appelez?
Oui, bonjour, je suis Hélène Lewis, je suis une retraitée de l'enseignement. Ça me fait plaisir de vous rencontrer pour discuter de la crise économique de 1929, j'ai bien compris.
Bien, parfait, merci beaucoup Hélène, ravie de vous recevoir ici. Qu'est-ce qui vous rend compétent à répondre à mes questions aujourd'hui?
Bon, c'est un sujet que j'ai enseigné de nombreuses années, dans mes cours d'économie surtout, mais également en histoire contemporaine. Alors, j'ai enseigné... Beaucoup au niveau secondaire 5, également au collégial, puis j'ai travaillé aussi en international. J'ai un diplôme en sciences politiques, maîtrise de sciences politiques, relations internationales. Alors, ce sont tous des sujets qui m'intéressent au plus haut point.
Parfait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du crash de 1929 qui s'est passé dans la période de la Grande Dépression. C'est passé principalement aux États-Unis. Et puis, c'est pas mal le sujet qu'on va entreprendre aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ma première question. À quoi ressemblait l'économie mondiale et la société occidentale juste avant le crash boursier d'octobre 1929, pour nous mettre en contexte?
Oui, alors, il faut savoir que dans les années 20, les années de grande prospérité économique, surtout à cause des investissements américains à l'extérieur des États-Unis, principalement en Europe, évidemment. Alors, les États-Unis prêtent beaucoup à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Allemagne, les principales grandes puissances européennes de l'époque. Et ces prêts-là servent à la reconstruction de l'Europe, puis à sa revitalisation suite à la Première Guerre mondiale 14-18. C'est ainsi que les États-Unis, évidemment, vont devenir progressivement, on le sait maintenant, la première puissance économique de l'Occident. Donc, New York, en fait, remplace Londres comme capitale financière du monde suite à ces relations financières nombreuses entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est la bourse de Wall Street, évidemment, qui va concentrer ces flux de capitaux. Aux États-Unis, la production industrielle est en hausse phénoménale. Jusqu'en 1929. C'est ça le grand contexte de l'époque. Alors, pétrole, chimie, acier, automobile, nouveaux produits de consommation de masse, domestique, etc. Automobile, évidemment. Et aussi, la productivité des entreprises américaines est en hausse à l'époque grâce à des nouveaux phénomènes comme la spécialisation des tâches industrielles, puis la standardisation des produits. Et apparaît aussi des nouveaux phénomènes à l'époque. La vente à crédit, la publicité, c'était toutes des choses qu'on n'avait pas avant.
Ça, ça va pas, ouais.
Et ça favorise évidemment la consommation de masse. Donc, c'est la prospérité américaine qu'on a appelée les années folles aux États-Unis. D'abord aux États-Unis, qui ont donné le pas. Et c'était suivi, évidemment, par l'Europe et le Canada, puis même beaucoup d'autres pays occidentaux industrialisés en général. Alors, c'est ce qu'on a appelé aussi l'apogée du libéralisme économique, c'est-à-dire le capitalisme, le laisser-faire économique. Et toute cette économie-là, libérale, a été prise en main par des géants de la finance puis des grandes entreprises très concentrées. Ça, c'est aussi un nouveau phénomène de l'époque. On a appelé ça les trusts, les cartels, les conglomérats, les holdings, les oligopoles. Tout le monde fait confiance dans ce système-là. Et dans ce système, l'État doit surtout pas intervenir, en tous les cas, le moins possible, juste au niveau des infrastructures pour soutenir l'industrie, pour soutenir les entreprises.
Donc, cela se passait très bien économiquement parlant.
Absolument, c'était l'euphorie pour...
Parfait.
Je ne vais pas dire autre chose.
Parfait. Je vais passer à ma seconde question. Quelles sont, selon vous, les principales causes profondes de la crise de 1929, au-delà du simple crash de Wall Street?
Oui. Alors, dans les années 20, il y a une insouciance généralisée devant ce capitalisme effréné et la réussite des entreprises, il faut le dire. Alors, ça trompe un peu tout le monde parce que ces entreprises-là, on voit qu'elles ont la capacité de concentrer le grand capital, ce qui favorise évidemment la croissance économique américaine qui est tellement forte que... Finalement, on va en arriver quasiment à des surplus de production dès les années 2020. 25, 27 à peu près. Alors, devant une telle prospérité américaine, il y a évidemment une spéculation boursière de plus en plus effrénée. Les gens veulent en profiter. Et on veut aussi profiter des fluctuations des prix des actions pour réaliser des profits rapides en bourse. Tout le monde veut en profiter, les individus, les entreprises, les banques, tout le monde. Avec ça, ben, on sait que les prix des actions vont monter, puisque c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a de demande, plus les prix montent. Et la demande devient trop forte par rapport à la valeur de la production, évidemment, sur laquelle est toujours basée la valeur des actions normalement. Mais là, la valeur des actions est supérieure à la valeur de la production. Alors, on dit que la valeur des actions est surévaluée. Les gens empruntent pour acheter des actions, imaginez-vous. Avec les années, quand ils vont vouloir revendre leurs actions parce qu'elles ont tellement monté que c'est profitable de revendre, ben, ils ne pourront pas être remboursés parce que les banques ont trop vendu à crédit pour que les gens achètent des actions. Donc, les banques ne peuvent plus autant rembourser les épargnants investisseurs. Alors, les banques ont également prêté beaucoup aux entreprises, aux PME, à tout le monde. Et donc, ça va être, évidemment, ça va entraîner ce qu'on sait qui va arriver.
Effectivement.
Les investisseurs, donc, ne peuvent plus rembourser les actionnaires. Les entreprises ne peuvent plus rembourser, les banques ne peuvent plus rembourser. Donc, les entreprises vont graduellement tomber en faillite, y compris les banques, parce qu'elles ont tellement prêté qu'elles se sont affaiblies elles-mêmes. Donc, à partir de 1925, on peut dire, l'effondrement de la bourse de New York à Wall Street annonce, mais il n'y a pas grand monde qui le voit encore. Puis, comme c'est la plus importante banque du monde, ben ça va influencer tout le reste du monde. Donc, la débandade va commencer là, à partir à peu près de 1925.
Eh bien, effectivement, c'est vrai que les banques n'ont pas aidé. On réagit face au gouvernement, mais comment les gouvernements ont-ils réagi face à ces argumentations des citoyens les années suivant la crise?
Oui, ça a été un peu différent selon qu'on parle des États-Unis ou des pays d'Europe. Aux États-Unis, c'était plus successful, comme disent les Anglais.
Oui.
C'était difficile parce que les grands dirigeants d'entreprise résistaient toujours à l'interventionnisme de l'État. C'était difficile, mais c'était un succès. C'est ce qu'on a appelé le New Deal. Hein. Les États-Unis vont adopter le New Deal, politique interventionniste. C'est une nouveauté pour l'époque dans les domaines clés de l'économie. Alors, ça vient du président Roosevelt, on sait, un démocrate, qui a été élu juste en 32. Donc, la crise, hein, le gros de la crise s'est prolongé jusqu'en 32. Alors, les domaines clés de l'économie, là, ben, c'est la monnaie, la réforme monétaire, on l'a vu, pour favoriser les exportations, continuer à faire de l'argent pour le pays, puis faire baisser la valeur de la monnaie aussi. C'est-à-dire que en dévaluant la monnaie, en faisant baisser la monnaie, on favorise les exportations parce que nos produits coûtent moins cher. Alors, c'est ça la réforme monétaire, c'est de régulariser la valeur des monnaies selon les besoins. Réglementer les activités bancaires et boursières pour protéger les petits épargnants, les petites entreprises contre les puissants trusts américains de l'époque. Subventionner les agriculteurs pour stabiliser le prix de leurs produits. Code du travail pour protéger les travailleurs. Ressources naturelles à mieux exploiter, puis un vaste programme de travaux publics. Ça, c'est très important. C'est ce qui a eu le plus de succès pour lutter contre le chômage. Fait que ça a donné des emplois aux gens de construire des infrastructures dans le pays. Ça, c'est pour les États-Unis. En Europe, le succès a été plus mitigé, puis plus risqué, selon les pays aussi. C'est plus compliqué politiquement en Europe, parce que c'est plusieurs pays différents. Alors, il y a des discordes entre les pays au niveau des stratégies à adopter. Les efforts sont incohérents, surtout à la SDN, Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Beaucoup de frictions, de tensions. D'abord, les États-Unis ne sont pas là. Ensuite, l'URSS non plus, parce qu'elle est communiste. Puis, l'Allemagne n'est pas là non plus, parce qu'elle est vaincue. C'est la vaincue de la Première Guerre.
Oui.
Donc, il y a des grandes puissances qui ne sont pas là. Et en Europe, donc, ça continue, là, la baisse du commerce international suite aux difficultés financières, suite à l'endettement par rapport aux États-Unis. Mais ils doivent rembourser. Les États-Unis obligent le remboursement, fait que ça fait de la chicane avec les États-Unis. Tous les pays essaient de dévaluer leur monnaie, comme les États-Unis l'ont fait avant. Ça a bien marché, mais là, tous les autres pays veulent faire pareil. Alors, comme tout le monde fait pareil, ça n'a plus aucun effet. Alors, ça, c'est en général. Donc, ce qui est très grave, c'est que devant cet état de fait, les pays européens vont devenir très protectionnistes. Ils vont vouloir, c'est sauf qui peut, là, se protéger. La Grande-Bretagne et la France s'en sortent un peu mieux parce que c'est les plus grandes puissances. Surtout la Grande-Bretagne va s'en tirer mieux. La France, c'est toujours plus compliqué politiquement. L'Italie, elle va miser, elle, beaucoup sur les travaux publics. Ça va être un succès, elle va donner du travail aux chômeurs. Et l'Italie et l'Allemagne, en gros, plus tard aussi le Japon, vont donc devenir très... vont avoir des stratégies à part, disons, très autarciques. Ils vont avoir des économies autarciques, ils vont se fier qu'à eux-mêmes. Et l'Allemagne, surtout, ça va aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir être tellement plus puissants qu'ils vont commencer à se réarmer dès les années 33. Ça va favoriser leur économie industrielle, donc vont devenir très forts industriellement. Mais bon, tout ça est dangereux. Hein? Le protectionnisme, c'est toujours dangereux de créer des frictions. Alors, c'est un succès mitigé, risqué, là, les réactions des États, surtout en Europe.
D'accord. Donc, on voit que le succès est mitigé bien. Pour aujourd'hui, quelles leçons les économistes et les décideurs d'aujourd'hui tirent-ils encore de la crise de 1929? Qu'a-t-on appris?
Ah ben, c'est sûr que quand on a appris que, surtout que quand on laisse le grand capital, des capitalistes, des banques, des financiers, des grandes entreprises réglementer l'économie, là, sans garde-fou, puis ni contrôle institutionnel de l'État, ben le danger, c'est de déstabiliser les économies. Danger d'inflation, danger de récession, de chômage, de déflation, bon, mettez-en. C'est des déséquilibres. Tous ces mots-là là, veulent dire des déséquilibres de l'économie causés par un laisser-faire économique. Alors, on a compris que les forces du marché doivent être réglementées, que la réussite économique de certains individus, là, comme les Rockefeller, exemple, aux États-Unis, ben, ce n'est pas un gage d'ordre social et de bien-être collectif. T'sais. On a compris ça assez vite. Donc, toutes les banques, même les marchés financiers, les maisons de courtage, la bourse, on veut que ça soit réglementé, surveillé pour avoir une économie stable, la stabilité avant tout. Puis, on a réalisé que la spéculation boursière peut être très dangereuse pour l'ordre mondial, puisque ça aboutit à la grande crise économique partout dans le monde. Donc, ça peut vite déstabiliser les économies de pays, surtout s'ils sont endettés. Ils sont moins capables de résister. Ils sont faibles. Puis, ils étaient endettés à cause de la prospérité économique américaine qui prêtait à flot les prêts, là, les capitaux, à crédit à ces pays-là. Alors, tout ça est très dangereux. Alors, donc, on a compris que ça prenait des mécanismes pour régler tout ça, donc on a créé des mécanismes sophistiqués, là, technologiquement parlant, pour éviter que les bourses s'emballent. On a installé des freins, autrement dit, pour éviter des débordements en bourse, des débordements spéculatifs, parce que tout le monde est tenté toujours par la spéculation pour faire des profits rapides. Hein. Donc, la cupidité étant humaine, on dit, ben, il faut, on n'a pas le choix, il faut réglementer ça. Et donc, on comprend que l'État doit intervenir par des politiques bon, qu'on connaît là, en économie, des politiques monétaires, fiscales, budgétaires, expansionnistes ou restrictives. L'État doit intervenir, doit voir aussi les signes avant-coureurs, là, comme le protectionnisme, c'est toujours dangereux. On a compris ça là, de la crise comme leçon, là. Le protectionnisme, tous les pays qui se replient là, sur eux-mêmes autarciquement, puis qui ne pensent qu'à sauver leur peau, bien, c'est très dangereux au niveau international. Donc, il faut favoriser autant que possible le libre-échange. On a compris ça pour assurer la paix mondiale. Mais on sait que c'est pas toujours évident là, d'éviter de la concurrence économique entre les pays, c'est certain. Hein?
Oui.
C'est pas une tâche facile. On voit au Canada aujourd'hui, avec Carney, qui essaie tant et bien de trouver des solutions hein, pour se sortir de la guerre tarifaire. Mais c'est pas toujours évident. Mais enfin, non. On connaît les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire.
Oui, donc au moins, malgré la tristesse de cette crise, on a pu tirer des leçons pour l'économie d'aujourd'hui.
Oui.
Et pour ma prochaine question, voyez-vous des parallèles entre la crise de 1929 et certaines crises plus récentes, par exemple celle de 2008 ou d'autres épisodes financiers, si vous en avez d'autres?
Oui, effectivement. Moi, je vois que j'ai vu, enfin, que dans la crise économique de 2008, qui est née aussi d'une spéculation boursière effrénée, moins sur l'ensemble des titres boursiers en général, mais sur certains titres boursiers importants, néanmoins, qu'on appelait des swaps ou des hedge funds, là, reliés à l'immobilier. Et la crise de 2008 a créé beaucoup de dommages, même si elle a été peut-être moins forte que celle de 1929, elle a créé beaucoup de dommages humains, toujours, hein, humains, économiques. Puis qui l'aurait cru qu'une crise boursière pourrait encore arriver? Certains ont même dit qu'elle a été presque relativement parlant, là, connaissant tout ce qu'on sait maintenant de la crise boursière de 1929, que la crise économique de 2008 a été presque aussi forte. Alors, pourquoi? Bien, c'est que la croyance générale voulait que l'immobilier soit un investissement boursier relativement sûr. Beaucoup de petits épargnants ou investisseurs ont investi dans des fonds immobiliers, dont ils ne comprenaient pas le contenu. Ils ont investi dans des prêts immobiliers, dans des fonds où on avait rassemblé des prêts immobiliers peu solvables à des gens plus modestes, là, donc moins solvables, à intérêt variable, ça c'est risqué, mélangé, puis là on mélangeait tout ça avec d'autres produits pour camoufler le risque de l'immobilier.
OK.
Alors, beaucoup de gens ont vu que du feu et de grandes banques américaines ont aussi, comme pendant la crise de 1929, vendu beaucoup de ces fonds-là pour le profit, simplement. Et des agences de cotation des banques et des titres boursiers ont cautionné ça. Ont cautionné ces titres-là malgré qu'ils étaient risqués. Et personne n'a vu venir la crise comme en 1929. Donc, il y a des parallèles.
D'accord.
Et cette spéculation effrénée sur ces produits là, qu'on a appelés aussi des subprimes, là, hein, on trouve toujours des mots là, des mots ronflants pour attirer le monde, pour montrer que c'est des produits sérieux, là, puis technologiques et tout ça. Bien, ça a explosé. Pourquoi en 2008, tout d'un coup, sans crier gare? Bien, c'est parce que les taux variables sur les immeubles ont grimpé subitement et le marché s'est effondré. Les taux d'intérêt ont monté et le marché immobilier s'est effondré. Puis, avec lui, bien, le capital des petits épargnants, puis même le capital en partie de grandes banques américaines. Il y a des banques qui ont dû fusionner, demander l'aide de l'État, faire faillite même. Alors, on voit aussi des parallèles. Là. Les banques ont pris beaucoup de risques, trop de risques, comme en 2008. La spéculation, il y en aura toujours. La corruption, la collusion, parce que certains ont dit là, que tout le monde a participé à cette arnaque-là, finalement. Donc, cette supercherie là, des subprimes. Et donc, ça peut arriver encore.
Mais très bien expliqué, donc on voit effectivement des parallèles entre ces deux crises. Parfait, très belle réponse. Merci beaucoup, Madame Lewis. C'est la fin de l'entrevue.
Bienvenue, Monsieur Laurent. Je vous souhaite une très bonne chance.
Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir répondu à toutes mes questions avec une bonne parole et de bons arguments. Et puis, bonne chance pour la suite.